Et en plus, ce sera le mois d'avril.
Salut!
Bye!
Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Il n'y a personne qui croit à ça au coup. Là. Tous les autres partis ont dit oui. On le voit, le format avantageait pas M. Carney.
T'as le déficit record, mais t'as le déficit record du déficit record. Parce que t'es sur le podium, puis t'as Éric Gérard, puis t'as encore Éric Gérard. Là. c'est comme un
vrai winner. Les enjeux qui te concernent.
M. Chaman va faire ses annonces très bientôt. Là. Et ben, nous, on entend dimanche le 6.
Donc, ça fait donc bien désiré, M. Hamad.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ah, franchement, la gang, là. Je sais dit, c'est vous.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes dans mon podcast de la soirée. Juste avant de te présenter mon premier invité, en fait, mon seul invité de la soirée, eh bien, on va regarder ce qui se passe côté météo. C'est des averses de neige ou de pluie, tout dépendant où vous êtes. On parle de 5 mm, un minimum de moins 3 degrés pour ce qui est de ce soir. Demain mardi, ce sera nuageux. Peut-être une alternance de soleil-nuage en mi-journée avec un maximum de 2 degrés. Mercredi, plein soleil, maximum de plus 1. Jeudi, ce sera de la neige ou de la pluie, maximum de 9. Et vendredi, ce sera une belle journée ensoleillée, maximum de plus 5. Et si le topo ne change pas, samedi, ce sera une alternance de soleil-nuage avec des probabilités d'averse de neige, un maximum de plus 4 degrés et un minimum de 0. Et dimanche, ce sera de la neige ou de la pluie, maximum de plus 5. Mon invité de ce soir, c'est Maître Marc Bellemare, l'ex-ministre de la Justice. On va s'entretenir sur des dossiers de l'actualité, entre autres le Grand Orange qui fait encore jaser dans les dernières heures. Possibilité d'un troisième mandat. La Constitution américaine ne lui permettrait pas, mais peut-être qu'il trouvera quelques magouilles, peut-être pour magouiller, parce que c'est un magouilleur. Donc, Marceau le soir, ça commence maintenant.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Maître Marc Bellemare, bon lundi soir.
Hey, bonjour, ça va bien? Belle semaine commencée à nouveau.
Oui, ben c'est ça. C'est un petit peu plus nuageux ce matin, mais en espérant que le printemps s'en vienne à grands pas. Quoique le Canadien a gagné hier, fait que j'étais un homme heureux aujourd'hui. Une belle victoire 4-2. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais ça a mal fini. Un des défenseurs des Panthers de la Floride qui a décidé à la dernière seconde de faire un lancer frappé vers le gardien. Ça a donné un échauffouré en fin de match et ça promet pour demain. Le prochain match, c'est demain à 19h. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Le Canadien qui semble avoir freiné sa série de défaites, Maître Bellemare.
Oui, ils ont du succès contre les Panthers. Hein. C'est assez étonnant, mais c'est... Écoute, ils ont du succès contre les gros clubs, ils ont plus de misère contre les petits clubs. C'est assez surprenant, mais je me souviens en Floride, dans le temps des fêtes, j'étais là au match à Sunrise, Florida, et M. Dobesch avait fait son entrée, je pense que c'était son premier match dans la Ligue nationale, il avait blanchi, si mon souvenir est fidèle, les Panthers à domicile pour les Panthers. Je pense que c'était 3-0 et c'était... Moi, je me disais, on a trouvé notre sauveur, Dobesch. J'étais convaincu. Écoute, il a été excellent. Il avait arrêté 25 tirs, je pense, et pas des faciles là, avec les Bartok puis les Reinhardt. Là, c'est, je vais te dire une affaire, ils comptent pas dans l'œil, ces gars-là. Mais il avait quand même arrêté plusieurs lancers et cette fois-ci, ben, regarde, le Canadien gagne encore en Floride, j'espère qu'ils vont gagner aussi à Montréal. Et puis là, il faut gagner, là, parce que là, il n'y a plus de place pour le laisser aller et les défaites s'ils veulent se qualifier. Puis écoute, moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'ils puissent se qualifier pour les séries. Ce serait vraiment un miracle, mais ça existe, les miracles, hein? Faut y croire.
On va se le souhaiter.
Un bon chrétien, faut y croire.
Ouais, le printemps, c'est assez plate sans les Canadiens de Montréal en série. Moi, je vais vous avouer que quand le Canadien ne fait pas les séries, j'arrête complètement de regarder le hockey pour quelques semaines. Et par la suite, la finale de la Coupe Stanley, là, je vais peut-être porter un peu plus attention. Ce que je surveille ces temps-ci, c'est Alexander Ovechkin qui est à la course au record de Wayne Gretzky. On est rendu à 5 buts du record de Wayne Gretzky. C'est un record qu'on ne pensait pas qu'il allait être battu. Et là, ben, c'est un Russe qui s'en vient chercher les records de notre Canadien préféré.
Penses-tu que ça peut se régler cette année? Parce qu'on ne sait pas, une coupe de matchs avec des doublés, là, ça pourrait aller vite. Il reste quoi, une douzaine de games là, pour...
Ben là, c'est ça. On est à cinq buts. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on va être à 4 buts du record, Wayne Gretzky ainsi que toute sa famille embarquent dans la caravane et vont suivre tous les matchs d'Alexander Ovechkin. Il va y avoir un documentaire qui va être fait à ce moment-là. Puis, ben c'est ça. C'est Gretzky va embarquer dans l'aventure pour célébrer le fait qu'il y a un Russe qui va battre le record du plus grand joueur qu'on a jamais eu sur Terre. De hockey.
Oui, c'est ça. J'ai un petit pincement parce que moi, j'étais de l'école Gretzky que j'ai écouté il y a quelques années, des matchs absolument incroyables.
Bon, c'était dans les années 80, on va se le dire, Maître Bellemare. Aujourd'hui, dans les années 2020-2030, les grosseurs de gardiens sont exponentielles avec le temps. Là. Les gardiens de but ont grossi. Les espaces pour pouvoir lancer ont rétréci. C'est exceptionnel ce qu'Alexander Ovechkin a fait quand même. Là. Même si, pour nous, Wayne Gretzky, c'était le meilleur, Alexander Ovechkin est exceptionnel. Il est de son temps, mais il est exceptionnel.
Oui, puis c'est surtout sa garnotte. Là. Son lancer foudroyant, même à l'âge qu'il a... Sont lancés, ça doit être la terreur des gardiens. Là, ils doivent se dire sur l'avantage numérique quand on voit notre ami Ovechkin dans slot un peu à droite du gardien qui reçoit une passe, il faut dire en affaire, les risques que ça rentre sont assez élevés. Puis je regarde Patrick Laine qui fait un petit peu la même chose. Hein. As-tu remarqué, la plupart des buts en avantage numérique sont comptés de la même manière? Puis on se demande, à un moment donné, on se dit, comment ça se fait que les gardiens ne sont pas capables d'arrêter ça? Je comprends que la rondelle rentre vite, mais sachant que Ovechkin est à droite du gardien, qu'il reçoit une rondelle, je ne sais pas, tu sais, peut-être avancer un petit peu plus, il ne fera probablement pas de passe, il va lancer, mais ça rentre, hein? Ça rentre à terre, ça rentre au ras de la glace, ça rentre d'un coin. Puis mon Ovechkin, il s'élance, puis ça part. Puis écoute, il a compté la plupart de ses buts de cette manière-là. Et c'est quand même exceptionnel, mais je ne sais pas quelle est la proportion des buts qu'il a pu compter. Probablement au moins la moitié dans cette position-là, puis il continue de le faire.
Oui, bien, moi, lorsqu'il y a eu le lockout dans la Ligue nationale de hockey, les gars avaient besoin de glace pour pouvoir se délier les jambes. Puis à un moment donné, il manquait des joueurs, puis on m'avait demandé d'aller jouer avec eux. Bon, ça fait déjà plusieurs années de ça. Puis j'ai toujours été un fan de hockey, toujours joué au hockey. Puis quand j'étais dans les estrades, je trouvais que le jeu y allait extrêmement vite, mais sur la glace, Maître Bellemare, là, ces gars-là, c'est des artistes. Là. La vitesse à laquelle ils passent à la vitesse où ils passaient à côté de moi, Maître Bellemare, jamais j'aurais pu imaginer que ça allait aussi vite. Là. C'est quand j'ai joué sur la glace avec eux que je me suis rendu compte à quel point ces gens-là sont exceptionnels. Quand on est dans les estrades, ça a l'air assez facile parce qu'on n'est pas sur la glace. Mais quand on les voit évoluer, ces joueurs-là, on voit que c'est vraiment un métier pour eux autres. C'est une passion d'abord et avant tout, mais c'est un métier. Puis ces gars-là, à tous les jours, sont sur la glace, s'entraînent, puis ça fait une grosse différence. Donc, j'imagine qu'un gars comme Alexander Ovechkin ou Patrick Laine, qui sont pas mal tout le temps dans leur propre bureau, là, à la hauteur des ailes, c'est pour nous, ça a l'air facile de les contrer parce qu'on dit on a juste à laisser traîner notre bâton. Mais dites-vous qu'ils sont supérieurs aux meilleurs joueurs de hockey au monde.
Ben oui,
c'est exceptionnel.
Rapide.
C'est un peu comme Connor McDavid à la Coupe des Quatre Nations. Il patinait plus vite que les meilleurs joueurs de hockey au monde. Il y en a qui sont extrêmement talentueux. Mais bref, pour ce qui est d'Ovechkin, il est à 5 buts du record de Wayne Gretzky. Puis pour ce qui est du Canadien, ben, quand on aura réglé notre problème de gardien là, d'ici 2 ans, 3 ans, parce que je pense que Jacob Fowler s'en vient à grands pas, puis ça va être lui le gardien numéro 1 du Canadien dans les prochaines années. On va patienter pendant 2 ans, mais qui sait ce qui peut arriver cette année, Maître Bellemare?
Oui, on ne sait pas trop, effectivement. Mais tu parlais de vitesse des joueurs, effectivement. Moi, j'ai réalisé la vitesse des joueurs quand j'étais sur le long des bandes. Tu sais, il y a toujours des sièges sur le long des bandes, là, vitrées. Là. On voit toujours des spectateurs qui sont là, puis on se dit tout le temps, mais ils ne voient rien, tu sais, ils sont bien trop proches de la glace, ils n'ont pas de vue d'ensemble. Mais l'avantage d'être là, moi, j'ai déjà été derrière le banc des punitions, là. Là, tu vois la vitesse des joueurs. Là, tu les vois se déplacer. Et là, c'est fascinant. C'est un aspect du jeu qu'on ne voit pas quand on est en hauteur. Mais la meilleure façon de voir les déplacements latéraux, la vitesse d'exécution, c'est vraiment d'être à peu près à un mètre ou deux du joueur sur le long des bandes. Là, tu vois que ça déménage. Là, c'est impressionnant.
Exact. Puis je me souviens de la phrase d'un des anciens joueurs des Nordiques de Québec, Marc Fortier. Il évoluait à la défensive avec moi pendant qu'on s'entraînait avec les gars de la Ligue nationale de hockey. Puis je réussissais quand même à tirer mon épingle du jeu en harponnant assez souvent la rondelle quand les gars venaient contre moi. Puis j'avais demandé à Marc Fortier, « Pouvez-vous me dire... » Ben, en fait, je l'avais tutoyé. « Peux-tu me dire comment ça que moi, je suis capable d'arrêter ces gars-là? » Il m'avait dit, « C'est bien simple, Yannick. T'es tellement lent... » que t'es pas supposé d'être là, c'est la raison pour laquelle tu réussis à leur enlever la rondelle. Parce que je ne jouais pas de système, puis en plus, j'étais pas capable d'évoluer à la vitesse où eux évoluaient. Fait que j'étais tout le temps à mauvaise place, à la bonne place pour moi, mais pour eux, j'étais à mauvaise place, j'aurais jamais dû être là. Fait que c'était un complimarde. Ouais, je pense que c'est un beau complimarde que Marc Fortier m'avait donné à l'époque. Maître Benoît, on parle des dossiers de la soirée. Je sais pas si vous avez vu ça passer aujourd'hui comme article, mais j'avais trouvé ça intéressant d'en jaser avec vous. Il y a de ça quelques temps, il y a un homme dans le secteur de Sherbrooke qui arrivait d'une soirée festive. Et il était aux alentours de 6 heures le matin. Et malheureusement, il s'est endormi au volant et il a fait un accident. Et le gars a été accusé de conduite dangereuse. Je ne savais pas que si on était fatigué au volant puis qu'il y avait un accident qui arrivait, que je pouvais être accusé de conduite dangereuse. Et le gars, finalement, a été déclaré coupable. Parce que ce que le juge mentionne, c'est qu'il était au courant, qu'il était fatigué puis qu'il n'était pas en mesure de conduire.
Oui, effectivement. Ben, tu sais, écoute, il y a deux crimes dans le code criminel qui peuvent s'appliquer, la conduite dangereuse ou la négligence criminelle. Il y a pas une grosse différence entre les deux. Je sais qu'en Ontario, la police qui est la police d'Ontario, police provinciale d'Ontario, est plutôt portée à accuser ou à recommander des accusations de conduite dangereuse. Au Québec, c'est plus la négligence criminelle. Qui est la conduite téméraire et déréglée à l'égard de la vie d'autrui. Ça veut dire que tu es fatigué, tu bailles aux corneilles, tu as pris un petit coup, ça ne veut pas dire que tu dépasses le 0.08, mais tu es fatigué, il est 6 heures du matin, tu n'as pas dormi, tu prends ton char puis tu sais que tu es à plat, à un moment donné, tu t'endors. Alors, si la police est capable de reconstituer les faits puis de prouver que tu étais conscient que tu étais fatigué, que tu étais conscient que tu étais très fatigué, que tu avais un risque d'endormissement, c'est-à-dire de dormir au volant puis de pogner le fixe, comme on dit, puis de te retrouver dans un accident, ou même, s'il n'y a pas d'accident, s'il t'arrête sur le bord du chemin parce que tu t'en vas tout croche dans le chemin où il y a quelqu'un qui fait un signalement, et même s'il n'y a pas d'accident, la simple conduite téméraire déréglée à l'égard de la vie d'autrui peut constituer un crime, puis tu peux être accusé puis être condamné. Tout à fait. Parce que on a tendance à penser à l'alcool. 0.08, c'est clair que c'est un crime. Mais la conduite négligence téméraire à l'égard de la vie d'autrui, la négligence criminelle, c'est une série de comportements. Ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui ne prend pas ses pilules pour l'épilepsie. On a vu à Québec, il y a une vingtaine d'années, un individu qui avait fauché une petite femme enceinte au sortir de l'hôpital du CHUL, du Centre hospitalier de l'Université Laval.
Ouais, c'était sur le boulevard.
C'était
sur le boulevard Laurier à Québec que c'est arrivé. Puis l'individu savait qu'il avait une problématique et il y avait une interdiction de conduire, mais malgré tout ça, il conduisait quand même.
Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être aussi le cellulaire au volant. Si on peut prouver que dans les quelques secondes avant l'impact, tu es en train de pitonner sur ton cellulaire, ça peut prendre différentes formes. C'est une disposition du code criminel qui s'applique à bien des sauces. Mais oui, effectivement, quelqu'un qui s'endort au volant et qui est dans une situation où il pouvait prévoir qu'il allait s'endormir ou qu'il n'allait pas avoir 100 % de sa capacité, peut être accusé puis condamné éventuellement de conduite dangereuse. si jamais il y a une conduite parfaitement erratique, sa conduite dangereuse, il faut prouver aussi qu'il y a comme il s'en va en zigzaguant ou qu'il évite des obstacles sur la route. Mais la négligence criminelle, ça peut être simplement un comportement blâmable là, qui est en relation avec la fatigue. Bien sûr que ça existe. C'est plus difficile à prouver, par contre, parce que la fatigue, tu n'as pas nécessairement rien dans le sang. Mais si on peut prouver que tu as roulé 20 heures avec ton camion en ligne ou bien que tu as eu une soirée assez chargée la veille et que tu n'as pas dormi de la nuit, puis qu'à ce moment-là, tu es impliqué dans un accident, dans une conduite problématique, tu peux être accusé, absolument. Ben,
ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'à l'arrivée des secours, le gars était incapable de tenir une discussion. Il y avait des difficultés à se tenir debout, donc on pensait a priori qu'il était sous l'effet de l'alcool, puis c'était pas ça. C'était juste parce qu'il était complètement brûlé. Puis bon, de ce qu'on comprend, c'est qu'il a plaidé coupable, puis il va avoir certains trucs à faire. Là. Je pense, j'ai vu une amende de 1 200 $ au Centre Jeunesse de l'Estrie. Il va y avoir aussi une imposition de faire des travaux communautaires, 20 heures de travaux communautaires, puis il devrait également payer une amende et respecter une probation de 12 mois.
Oui, en tout et moins pour une négligence criminelle, là, je trouve que c'est pas très sévère, même que c'est à se demander des fois. Je me demande des fois qu'est-ce que ça donne de mettre la police sur une enquête poussée, laborieuse, coûteuse pour les contribuables. Aller chercher toute l'information, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Au bout de l'année, se retrouver avec des peines comme ça ou des libérations conditionnelles. Si tu veux mon opinion, là, je trouve que notre justice criminelle en prend pour son rhume dans ces situations-là. Parce que si c'est effectivement grave, et même si l'individu n'a pas été impliqué dans un accident mortel, on comprend que la négligence criminelle, c'est tu prends un risque avec la vie d'autrui. Alors, je trouve que dans les circonstances, on se retrouve avec un dossier en queue de poisson pas mal. Je trouve que les peines dans ces situations-là pour une infraction quand même assez grave sont assez modestes et j'aurais souhaité davantage.
Maître Bellemare, je veux parler d'un dossier duquel vous avez été impliqué il y a de ça quelques années. Ça remonte en 2022, plus précisément, le 6 avril. Kim Lebel, qui était en proie à des hallucinations, il y avait des problèmes de schizophrénie. Kim Lebel, il était complètement déconnecté de la réalité. Il a sorti de sa maison et il avait décidé, lui, qu'il s'en prenait au véhicule des voisins. Puis à ce moment-là, il y a un voisin qui a décidé de sortir, qui connaissait visiblement Kim Lebel, qui a essayé d'intervenir. Et finalement, Kim Lebel s'était reviré et avait décidé de le frapper à coups de barre de fer, c'est bien ça. Oui. Et malheureusement, le voisin Jacques Côté est décédé. Et ce qu'on apprend dans l'actualité, c'est que les parents de Kim Lebel, donc l'individu qui a tué Jacques Côté, les parents de Kim Lebel décident de poursuivre la police de Québec. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail?
Oui, bien écoute, c'est une histoire qui va certainement intéresser les auditeurs et beaucoup plus encore les auditeurs qui ont dans leur famille quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. J'ai beaucoup, beaucoup de clients, moi, qui ont des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Des fois, c'est des problèmes de consommation, des fois, c'est des problèmes de schizophrénie, des fois, c'est des problèmes de psychose. Ils font des crises, ils sont imprévisibles et les parents sont ultra inquiets à l'idée qu'à un moment donné, l'individu dont ils ont la garde, mais ils essaient, tant qu'ils peuvent, de contrôler l'individu, mais c'est pas non plus, ils ne sont pas spécialisés là-dedans, ils n'ont pas les ressources, puis ils peuvent eux-mêmes se sentir menacés dans certaines situations. Quand tu dors avec un enfant schizophrène de 23 ans qui pèse 225 livres, 6 pieds 2, dans la chambre d'à côté, puis tu sais jamais à 2 heures du matin s'il peut se lever puis commencer à s'attaquer à des gens dans la maison. C'est extrêmement inquiétant. Et c'est ce qui s'est produit avec la famille Lebel au moment où Kim a commencé à présenter des problèmes de comportement un lundi matin, en début de semaine. Et là, la famille a communiqué avec la police, se sont présentés au domicile de Kim deux policiers qui ont dit non, il parle, il a l'air correct, alors on n'intervient pas. Alors la famille, insatisfaite de cette approche policière-là, très peu profonde, en tout cas, ils ne l'ont même pas fait examiner par un médecin, À ce moment-là, le mercredi, la famille se présente auprès d'une ressource qui peut les amener devant un juge pour pouvoir obtenir une ordonnance, ce qui a été fait. Et l'ordonnance a été émise, si mon souvenir est fidèle, le jeudi. Et la mère de Kim est sortie du palais de justice avec un jugement dans les mains. Elle s'est présentée là sous l'heure du midi à Centrale Victoria à Québec et a remis le jugement à un policier qui, plutôt que d'embarquer dans son char puis d'aller chercher Kim Lebel, parce que l'ordonnance de la Cour du Québec disait clairement il faut que l'individu soit intercepté, ordonne au service policier d'intercepter l'individu, de l'amener vers une ressource médicale, etc. Donc, il n'y avait pas de niaisage à faire, mais il y a eu du niaisage. Ça a duré à peu près 3 heures et demie. Le policier, on va vérifier des affaires, on va checker ça. Pendant ce temps-là, la mère est complètement exaspérée de voir le policier qui a l'air à prendre ça clopin-clopin, puis à pas trop s'inquiéter. Alors, elle dit et répète à plusieurs reprises au policier, c'est important, mon fils est dangereux. Il est à Lac-Saint-Charles, dans le nord de Québec. Allez le chercher. Et finalement, ça n'a pas marché. La police n'a pas bougé. Et en retournant à domicile, les parents de Kim Lebel, autour de 3h30, 4h l'après-midi, ont aperçu leur fils en train de tuer un voisin avec une barre à clous au sol. Et c'est le père de Kim Lebel qui est arrivé sur place, qui a sorti de son véhicule, qui est allé maîtriser son propre fils en train d'assassiner un voisin. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais tout ça est hautement traumatisant. Ça a été épouvantable. Là, la police est arrivée en arrière des parents. Parce que là, ils ont eu un signalement comme quoi il y avait quelqu'un qui était en train de tuer un voisin à Lac-Saint-Charles. Alors, cette histoire-là est d'une tristesse infinie. Et les parents ont décidé de poursuivre, et je suis d'accord avec eux. Et c'est moi-même qui ai recommandé aux parents de s'adresser à un avocat de Québec qui s'appelle Francis Fortin, qui est spécialisé dans les cas de responsabilité civile. Et moi, j'ai demandé à Francis Fortin de faire les procédures qui ont été déposées la semaine dernière, et l'affaire va se retrouver devant le tribunal pour voir dans quelle mesure la police a été erratique et fautive du fait qu'elle ne soit pas intervenue spontanément, sans aucun délai, pour neutraliser l'individu ayant à sa possession un jugement de cour qu'elle a tardé à exécuter, à mettre en force, si tu veux, laissant pendant plusieurs heures Kim Lebel se désorganiser alors qu'il était l'objet d'un jugement de cour que la police a sciemment négligé d'exécuter. Et il y a eu un mort d'homme dans ce contexte-là. Fait que je trouve que c'est une cause importante et ça touche, je l'ai dit tantôt, tous les parents, tous les proches de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et il va falloir que la police réorganise son système. D'ailleurs, il y a une enquête du coroner qui a eu lieu il y a quelques mois et la coroner a dit que la procédure policière était déficiente et qu'il fallait le revoir. Et là, on parle de la police de Québec, là. Yannick, on ne parle pas d'une petite police là, dans le fond du bois, là. On parle de la police de la capitale nationale. Alors, c'est pour te dire que ça veut dire qu'il y a toute une réorganisation à faire pour répondre à ce type de jugement-là. Sans aucun délai.
Ah, les témoins policiers qui ont été entendus devant la coroner ont mentionné que bon, le type d'ordonnance est classé comme une priorité 3. Et ce que la coroner avait dit à l'époque, c'est recommander aux services policiers de réévaluer ses priorités parce que visiblement, le travail aurait dû être fait. Le travail de la coroner, nécessairement, va servir comme élément de preuve.
Bien, c'est-à-dire que pas nécessairement. C'est-à-dire que le rapport du coroner comme tel n'est pas liant pour la Cour. Ça ne veut pas dire que la Cour supérieure ou la Cour du Québec qui est impliquée dans ce genre de procédure-là en dommage-intérêt de la part des parents ne peut pas s'en inspirer. Mais le juge n'est pas lié par les recommandations du coroner. Mais c'est sûr que ça donne des outils aux procureurs, aux avocats de la famille Lebel, qui entendent défiler des témoins devant le tribunal, devant la coroner, et qui vont pouvoir développer leurs preuves, la séquence des témoignages, de façon à obtenir un bon résultat. Mais écoute, il faut se demander dans ce genre de cas-là, est-ce que la police protège le public ou la police se protège elle-même? Parce que de ce que j'en sais, Le taponnage de la police de Québec qui a duré plus de 3 heures entre le moment où ils ont eu dans les mains le jugement et le moment où ils ont finalement décidé d'intervenir, mais il était trop tard, est en lien avec le fait qu'ils vérifiaient l'individu. Ils vérifiaient la dangerosité de Kim Lebel. Y a-t-il des antécédents? Y a-t-il quelque chose pour qu'eux-mêmes puissent se protéger? Oui, je pense qu'ils peuvent, chemin faisant vers le domicile de Kim Lebel, vérifier peut-être c'est qui l'individu, c'est qui le moineau qu'on s'en va intercepter. Mais compte tenu que le lundi précédent, 48 heures plus tôt, deux policiers de la ville de Québec étaient intervenus pour aller le rencontrer, il y avait quand même du stock sur lui et ça ne justifie pas 3-4 heures de délai avant qu'il décide d'intervenir. Alors, c'est à se demander si la police qui est là pour nous protéger n'a pas souvent le réflexe de se protéger elle-même plus encore que l'intérêt public, parce que laisser un individu comme ça qui est baraqué avec, dans un secteur assez éloigné quand même du centre-ville de Québec. Lac Saint-Charles, c'est la banlieue nord. On peut se questionner sur l'attitude, mais je suis convaincu que déjà il y a eu des changements au niveau de la ville de Québec face à cette situation-là. Et là, évidemment, il y a une perspective de condamnation et j'espère que le tribunal va donner suite aux recommandations des parents. Là.
Kim Lebel a tué Jacques Côté le 6 avril 2022. Là, on est en 2025, le 31 mars 2025. Il va comment aujourd'hui, Kim Lebel? Est-ce que vous avez eu des nouvelles?
Bien, il y a eu des accusations au départ de meurtre et il a été reconnu non criminellement responsable. Parce que les experts psychiatres, autant du côté de la défense que du côté des PCP, ont conclu que Kim Lebel, au moment où il avait tué le voisin, n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il était en psychose sévère et il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Donc, oui, Kim Lebel est en institution au moment où on se parle. Il est traité pour une condition psychiatrique. Parce que non criminellement responsable, ça ne veut pas dire que tu t'en vas chez vous faire une petite balade dans le parc. Là. Ça veut dire que tu vas devoir être traité pour la condition qui a mené quand même à un meurtre crapuleux, violent, adressé aux voisins. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même pour la famille, c'est quand même une épreuve parce que c'est pas la police qui a tué Jacques Côté, c'est Kim Lebel qui a tué Jacques Côté. Mais la police a fait défaut de neutraliser un malade psychiatrique en crise psychotique sévère et a fait défaut d'empêcher le pire. Et c'est ça qui est la cause des parents. Parce que pour les parents, ça a été un épisode traumatisant. Ils ont dû eux-mêmes intercepter leur fils. Ils ont assisté à cette scène-là. Là, c'est tout le déshonneur qui accompagne cette situation-là. Imagine-toi, tu as un fils qui a tué un voisin dans la petite municipalité, de Lac-Saint-Charles. Alors, c'est hautement traumatisant et c'est certain qu'il y a un dommage important qui en découle. Moi, j'ai assisté les parents pour des réclamations auprès d'IVAC parce qu'ils ont été victimes d'actes criminels en assistant à une scène de meurtre. Donc, ils ont eu des indemnités. Mais quand tu regardes les coûts financiers, les coûts sociaux, financiers associés à ce type de drame-là, la police, combien ça a coûté, les parents, les traitements psychologiques, combien ça a coûté, les pertes de revenus, combien ça a coûté. La mère de Kim travaillait dans un centre de la petite enfance à Québec, donc elle a été absente du travail pendant les 2 années qui ont suivi. C'est toutes les pertes financières associées à ça, c'est quand même colossal. Et en plus de la perte de confiance face à la police pour l'ensemble de la population, ça aussi, c'est un coût important à considérer dans ce genre d'événement-là.
Puis est-ce que Kim Lebel va revoir le jour à un moment donné?
Oui, mais ça va dépendre de sa condition psychiatrique. C'est sûr qu'il ne sera pas là toute sa vie, à moins qu'il soit malade tout le temps. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir une sortie. Si le psychiatre de Kim Lebel en institution est capable de convaincre le tribunal administratif du Québec, la section maladie mentale, parce qu'en vertu du code criminel, dans toutes les provinces, il y a comme un tribunal administratif qui entend les revendications des malades.
Ouais.
qui ont été inaptes à subir leur procès ou qui ont été libérés pour non-responsabilité criminelle. Donc, ils peuvent s'adresser au tribunal administratif qui est composé généralement d'un avocat, d'un psychologue et d'un psychiatre qui entend l'affaire et qui questionne pour savoir si on peut laisser sortir le malade. Et le psychiatre a la responsabilité de prouver qu'il ne constitue pas un risque important pour la société. Puis là, c'est tout le baratin, mais il y a des gens qui ont été libérés pour non-responsabilité criminelle qui sortent au bout d'un an et demi. Il y en a d'autres qui sortent au bout de 5 ans, il y en a d'autres qui sortent au bout de 10 ans, dépendant de l'évolution de la pathologie puis du degré de dangerosité du malade.
All right. Juste avant la pause, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les dernières semaines, les derniers mois, mais Donald Trump avait régulièrement évoqué la possibilité de faire un troisième mandat comme président des États-Unis, ce qui est techniquement impossible à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Hier, dans une entrevue téléphonique avec la chaîne NBC, on lui a mentionné, est-ce que vous pensez toujours à un troisième mandat, Donald Trump? Et Trump a dit, je blague pas, il y a des méthodes pour faire ça. Et la première possibilité serait que J.D. Vance pourrait se présenter aux prochaines élections. Et si J.D. Vance est élu, pourrait laisser sa place à Donald Trump. Je pense que pendant 2 ans, là, jusqu'aux midterms du moins, là, on va entendre parler toutes sortes d'histoires à bracadabrande de la part de Donald Trump et de ce qu'il veut mettre en place. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pour attirer l'attention et dire aux pays amis et aux pays voisins, vous ne serez pas débarrassé de moi dans 2 ans, dans 4 ans. Je vais être là jusqu'à la fin de l'humanité.
Oui, mais M. Trump, évidemment, il n'est pas jeune. Je pense qu'il a 77 ans. Donc, la fin de son mandat, son deuxième terme, pardon, le mènerait à quelques 80. En tout cas, il serait au moins octogénaire. Alors, dans un premier temps, on peut penser qu'il y a une question de santé aussi, santé mentale. On a vu ce que ça a donné avec Joe Biden. Je ne veux pas comparer deux individus parce que Trump est définitivement une force de la nature. J'ai toujours trouvé que ce gars-là avait une santé, en tout cas, apparemment, on peut être en désaccord avec ce qu'il dit, puis on peut le trouver menteur, puis hypocrite, puis etc. Mais on peut pas dire que c'est un gars qui a des troubles cognitifs. En tout cas, s'il y en a, c'est assez bien caché derrière le propos, parce que moi, je le regarde aller, je le regarde parler, il est spontané, il y a des prestations publiques devant les journalistes, il y a 40 journalistes dans le bureau ovale, puis il parle, il fait des jokes, il y a de la suite dans les idées. Encore là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le contenu de son discours, mais ça n'a pas l'air d'un gars qui a des troubles cognitifs. Ceci dit, la Constitution américaine est claire sur le fait que c'est deux mandats, que ce soit consécutif ou non. Dans l'histoire, la plupart des mandats ont été consécutifs. On n'a qu'à penser à Obama, à Clinton, par exemple. Mais il reste que, oui, effectivement, si c'était J.D. Vance, son vice-président, qui se présentait la prochaine fois, puis que lui était le vice-président du président Vance.
Oui.
Mais tout ça est fortement hypothétique parce que je pense que la prochaine campagne présidentielle va être chaudement disputée, peu importe les candidats. Et là, on va avoir évidemment ce qu'on appelle les midterms, les élections à mi-mandat qui vont venir en 2026, où il risque d'y avoir pas mal de démocrates élus. En tout cas, on verra bien selon le niveau de satisfaction que M. Trump peut obtenir auprès de l'électorat. On verra bien, mais il y a encore, il vient d'être assermenté au mois de janvier, là, on est à peine au début avril, presque au début avril. Alors, on verra bien, mais effectivement, ça fait jaser, puis ça peut amener toutes sortes de spéculations, puis Trump en raffole des spéculations. Il se lève le matin, puis il se demande qu'est-ce qu'il pourrait poser pour soulever la polémique. Encore là, il a réussi à attirer notre attention.
Exact, exact. Puis, je vous rejoins, là. Donald Trump a 78 ans, puis j'ai l'impression qu'il y a de l'énergie pour 10 personnes, parce que du matin jusqu'au soir, hein, puis j'ai l'impression aussi que la nuit, il y a toujours des trucs qui se font concernent Donald Trump. C'est 16 jours sur 7, il n'arrête jamais. Il y a des soirées mondaines. Il va peut-être y avoir un mariage, là, de ce qu'on comprend, avec Jeff Bezos. Il va aller faire un tour au mariage, tout en négociant avec le Canada et le Mexique, tout en négociant avec l'Ukraine et la Russie, tout en négociant avec le Hamas et Israël. Il a 78 ans, mais il a la tête partout. Puis malgré ça, il réussit à faire du cabotinage qui fait en sorte que les gens commencent à stresser. Quoi? Un troisième mandat? C'est impossible. C'est assez particulier. Un personnage incroyable, Donald Trump. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que, comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Si vous avez des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST qui traînent, eh bien, c'est bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on vit.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
Dites-moi donc, M. Déragé, qui est le plus pire, Jonathan Julien ou Geneviève Guilbeault?
Les deux. Les deux pour la capitale nationale, leur bilan est les zéros. Z-E-R-O, malheureusement, quand vous avez, en tant que ville, la vice-première ministre, ministre responsable des transports et mobilité durable, et vous avez un ministre, Jonathan Julien, qui a un double chapeau, responsable de la capitale nationale et infrastructure. Et il donne ce cadeau à la ville de Québec pour un projet extrêmement important. Donc, moi, les deux sont dans le même panier. Ils ne livrent rien pour la capitale nationale. Et encore une fois, la question qui se pose, depuis leur élection, Mme Guilbeault et M. Julien, quel projet structurant ils ont livré à la capitale nationale?
C'est vrai, je le cherche encore.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon,
vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Si je dis le plus vieux stade de baseball en Amérique du Nord, Aerosmith, le but gagnant de McDavid pour le Canada, et Harvard.
Oh yeah! C'est le grand retour du Rock'n'Ball!
Pis cette année, ça se passe à Boston.
Tu pourrais gagner tes billets pour le show de Linkin Park avant leur passage au Canada et pour voir les Red Sox au mythique Fenway Park en août prochain.
Je te dis ça de même, là, mais regarde dans ta poche en arrière. Il y a 500$ d'argent inclus, puis on a même pensé à ton transport puis ton hébergement avec un crédit voyage.
Hey, une virée à Boston sur le bras de harnais, c'est juste parfait.
Reste à l'écoute. Quand t'entends une toune de Linkin Park, note l'heure pour l'inscrire au blvd.fr.
Parce qu'on sait jamais, in the end, tu vas peut-être te retrouver à Boston grâce à Boulevard 102.1, Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques.
Planifiez votre consultation sans frais pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 100$. Oh, attendez! Obtenez une carte cadeau de 125$. Cliniqueviva.com. En mars, chez Lunetterie Bélan, obtenez 100$ de rabais à l'achat de 2 paires de lunettes progressives complètes. 200$ de rabais à l'achat de 3 paires. 300$ de rabais à l'achat de 4 paires. 400$ à l'achat... Lunetterie Bélan, plein la vue. Marie-France Proulx, opticienne.
Ces temps-ci, tout vous tombe sur la tête comme une tonne de briques. Vous avez brûlé le souper. Vous trouvez plus vos clés. Chez Groupe Fix, on peut rien faire pour votre souper. Mais on peut réparer la fissure dans la brique sur le côté de votre maison qui laisse entrer l'eau.
Quoi? Ça coule?
Ben oui, ça coule. Mais c'est pas grave. On va vous réparer ça. Et madame, vos clés sont ici. Groupe Fix. Tout ce qui est maçonnerie. Pour le meilleur service, 1-844-BRIQUE.
Air Transat présente des amis qui se demandent où aller pour leurs vacances.
Hey, on va-tu à Londres?
Ah, bonne idée, mais qu'est-ce que tu penserais de Paris?
Ça va-tu?
Ben oui, c'est juste que je pratique mes accents, là.
Ne laissez pas filer cette offre.
Espagne.
Profitez vite de l'Europe à petit prix avec des vols sans escale à partir de 659$ aller-retour, bagages de cabine et repas chauds inclus. L'occasion parfaite pour partir et revenir avec un bonjour, hello, ciao. Bien maîtrisé. Des conditions s'appliquent. Air Transat. Le voyage nous transporte.
Soit un plan d'achat TELUS avec ton employeur, profite d'offres exceptionnelles avec Horizon Mobile. Obtiens le nouveau Samsung S25 à prix incroyable et une montre Watch 7 à partir de 2$ par mois. À notre boutique Horizon Mobile, détaillant TELUS sur Pierre Bertrand, Saint-Romuald ou toncel.ca.
Soutenir les entreprises d'ici est plus important que jamais. C'est pourquoi Poste Canada vous offre ses meilleurs tarifs à ce jour. Pour une durée limitée, votre entreprise peut économiser jusqu'à 70 % sur les colis accélérés et les retours au Canada. Si votre entreprise est basée à Montréal, vous pouvez expédier des colis légers localement pour seulement $3.50. C'est le meilleur moment de magasiner chez nous. Pour en savoir plus, visitez postecanada.ca/expédion chez nous.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Puis, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine?
Une maison.
PMR. Pour les vrais.
Félix, peux-tu aller faire ta chambre?
OK, maman.
Oh, il est tellement comme son père.
BMR, pour les vrais.
Imaginez un réveil sans réveil. Tous vos soucis qui s'envolent. Et la magie des bonheurs complices. Voilà, vous ressentez le nouveau Brunswick.
Abondamment fenestré, les unités du Viennard offrent un cadre de vie d'exception. Le complexe comprend un gym, une piscine chauffée, des espaces de travail et bien plus. Nous acceptons tous les chiens. Habitez un condo neuf et profitez d'une promo sur les 4,5. Viennard.ca.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca, dossier de SAC, DIVAC, de CNSST, c'est Bellemare Avocat. Maître Bellemare, je voulais vous entretenir sur Dave Picturmel. Dans les dernières heures, on a appris que Dave Picturmel, c'était pas juste un gars qui était en cavale. Visiblement, il était en Italie pour régler de grosses affaires. On parlait d'importation de drogue au Canada, donc Italie, Canada, se promenant en Mercedes aussi dans le, en Italie, il semblait mener la grosse vie tout en continuant de négocier et donner des indications à des gens au Québec pour qu'ils puissent commettre des crimes. Il y a eu une récompense qui avait été mise sur sa tête. On parle d'une récompense de 250 000 $ qui pourrait être remis à un dénonciateur anonyme. Ça fonctionne comment, les récompenses au Québec?
Oui, on a. J'ai hâte de voir la face de Picturmel parce qu'ils disent qu'il y a eu, quelques changements esthétiques. Peut-être qu'on va voir le nouveau Picturmel éventuellement sur les images, mais il paraît qu'il avait, il avait fait procéder à certains changements esthétiques, j'imagine, pour pouvoir passer incognito. Mais c'est clair qu'il y a eu... écoute, c'est quand la planète, c'est quand même pas rien. Là. Il y a du monde, puis c'est grand. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à le retracer en Italie? C'est vraisemblablement parce qu'il y a eu des dénonciations. Et il y a une rançon, tu l'as dit, de 200, une récompense de 250 000. Et il y a un article très intéressant dans la presse d'hier, dimanche, qui explique un petit peu le processus. On parle du programme BOLO, qui est un programme qui permet de dépenser des sommes d'argent pour des dénonciateurs qui seraient en mesure de fournir de l'information sur les 25 top criminals, c'est-à-dire les 25 criminels les plus recherchés au moment où la police a décidé de divulguer leur identité. Puis évidemment, Picturmel constitue probablement l'individu le plus recherché compte tenu de toute cette violence et de tous ces règlements de compte rattachés au trafic de drogue avec les Hells Angels dans la région de Québec au cours de la dernière année. Ça a été extrêmement difficile pour les gens de Québec de supporter ça. Il y a eu de la violence, il y a eu des meurtres, il y a eu de la torture et M. Turmel a décidé de fuir le Canada. Et on l'a retrouvé en Italie. Alors, le programme BOLO, ben, c'est 50 000 $ 100 000 $ jusqu'à 250 000 $ Et en dehors du Québec, ça s'appelle les Crime Stoppers, c'est-à-dire que tu peux communiquer avec Crime Stoppers, qui est un organisme sans but lucratif et qui gère les dénonciateurs. C'est-à-dire que si tu appelles là, tu ne donnes pas ton nom, tu ne donnes pas ton identité, mais on te donne un code d'identification pour ton signalement. Et à partir du moment où tu as ce code-là, toutes les communications se font sous le code et non pas sous une identification de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. Alors, c'est juste toi qui peux communiquer avec Crime Stoppers. Et on sait qu'au Québec, c'est un petit peu différent, semble-t-il, mais... C'est pas mal la même procédure et c'est un dénommé Maxime Langlois, là, donc, qui est identifié dans l'article de la presse, qui semble gérer tout ça. Et à ce moment-là, si donc tu donnes de l'information, tu dis par exemple, M. Turmel est à Milan, En arrière de la cathédrale El Duomo à Milan, du côté nord-ouest de la cathédrale. Exemple. À ce moment-là, il y a une vérification qui est faite. Et si ça permet d'identifier et de retracer l'individu avec succès, à ce moment-là, à partir du code que tu as, tu peux communiquer avec eux et eux vont être capables d'identifier un lieu où le montant d'argent va être versé. En argent, dans un lieu secret, pré-identifié, ou bien dans une banque. De sorte que l'individu peut bénéficier d'une récompense de 250 000 piastres puis ne jamais donner la totalité de son identité. Tout ce qui est pertinent, ce n'est pas son identité, c'est l'information qu'il donne et qui permet de retracer l'individu. Par contre, l'article ne dit pas quelle est la sensibilité de l'information qui peut permettre de toucher la récompense. Tu sais, si tu dis simplement, ah, il est en Europe, est-ce que c'est une information qui est de nature à permettre de le retracer? Pas nécessairement. Est-ce qu'il faut donner l'emplacement précis, la localisation, l'adresse, la ville, avec qui il est, est-ce qu'il est transporté, dans quel type de véhicule? Évidemment, j'imagine que ça ne peut pas être juste... il est en Europe, là. J'imagine qu'il doit y avoir davantage de sensibilité pour pouvoir toucher la récompense. Et évidemment, dans l'article de la presse, on ne dit pas s'il y a de la chicane, mais j'anticipe qu'il puisse y avoir beaucoup de problèmes quant à savoir si l'individu peut toucher la récompense, même s'il donne une information qui est très vague et qui ne va pas nécessairement mener directement à la personne qui est recherchée.
En même temps, Maître Bellemare...
Ça s'appelle Bolo, le programme
ouais.
Bolo.
Ouais. On l'a retrouvé dans sa chambre d'hôtel. On savait exactement où il était. Les choses ont été très rapides, là, de ce qu'on comprend du milieu policier. Lorsqu'ils ont eu l'information, ils ont tout de suite communiqué avec la police italienne. La police italienne s'est rendue très rapidement sur les lieux, puis on lui a mis la main au collet. Dave Picturmel doit savoir exactement qui est-ce qui l'a dénoncé. Parce qu'il ne devait pas dire à tout le monde, sachant qu'il y avait une prime de 250 000 $ au-dessus de sa tête, il ne devait pas dire à tout le monde où est-ce qu'il était. Là. C'est clair que ce gars-là, la personne qui va avoir ce fameux 250 000 $ c'est clair que cette personne-là va devoir refaire sa vie ailleurs. Parce que Dave Picturmel est un individu extrêmement dangereux. Il y a des gens ici au Québec qui ont commis des gestes barbares en son nom à lui, moyennant de l'argent. Puis Maître Bellemare, dans les milieux policiers, là, ce qu'on m'a appris, là, c'est que c'était assez facile maintenant de faire tuer quelqu'un, de faire descendre un tueur de Montréal pour 1000 $ Puis la personne ben, va aller un peu partout au Québec pour commettre le meurtre qu'on l'a mandaté pour 1000 $ Maître Bellemare. 1000 $
C'est vraiment des pinottes, là. C'est vraiment ridicule, risquer sa vie. Pour ça, mais il y a des individus, effectivement, qui vont, sans scrupules, sans cœur et sans âme, procéder à des assassinats pour des sommes aussi modestes que celles-là, comme on sait qu'il y a des vols qui sont commis avec des meurtres pour des sommes ridicules. Tu sais, des gens qui... des invasions de domicile où ils vont trouver peut-être 300-400 piastres dans le portefeuille de monsieur. Ils vont assassiner les deux personnes pour éliminer les risques d'être identifiés pour... par la police en lien avec cette invasion-là. Alors, non, les assassinats ne sont pas nécessairement en relation avec des sommes d'argent immenses. Et il y a des gens qui sont prêts à tuer pour peu d'argent, étant convaincus qu'ils ne se feront jamais prendre, là, effectivement. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à procéder dans ce sens-là. Le crime organisé, c'est vaste, c'est pas juste la drogue. C'est aussi les règlements de compte, c'est des ex-prisonniers, c'est des gens qui veulent venger des proches qui ont été arrêtés, condamnés. Écoute, c'est par les temps qui courent, on peut soupçonner à peu près n'importe qui de ce genre de cas-là. Puis aujourd'hui, c'est facile de s'en sortir. Si tu mets en filature quelqu'un pendant une couple de semaines, tu risques d'être capable d'identifier ses allées-venues, son adresse résidentielle. Et avec de la patience, tu peux venir à bout de à peu près n'importe qui aujourd'hui.
Oh oui, puis si j'ai été suivi par un tueur à gages, Maître Bellemare, je peux vous dire qu'après une journée, il connaît exactement ce que je fais à tous les jours. En semaine, en fait, on sort toujours de la maison à la même heure. On revient toujours à la maison à la même heure. On va travailler toujours au même endroit. On stationne pour la plupart d'entre nous, toujours notre véhicule à la même place. Non, non, on est des petites bêtes assez faciles à surveiller, là.
Oui, puis on se souvient de la fusillade de l'Assemblée nationale en 84 où on était tout surpris de voir M. Lortie rentrer avec une mitraillette dans l'enceinte du Parlement, puis on disait « ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait qu'on n'est pas plus protégé que ça ». Aujourd'hui, il y a des mesures de sécurité un petit peu plus importantes au niveau des parlementaires, ouais, dans l'enceinte du Parlement. C'est mieux protégé. À la Chambre des communes, c'est la même affaire. Mais il reste que ces gens-là sortent aussi, ils ne sont pas toujours... à l'intérieur du Parlement. Puis en période de session, à l'Assemblée nationale, la plupart des parlementaires qui sont de l'extérieur ont un lieu de résidence, un condo, une maison ou un appartement, ou bien ils vont à l'hôtel. Mais encore là, comme tu dis, quelqu'un qui a un peu de temps pour suivre, qui se promène sur la Grande Allée à Québec ou dans l'enceinte du Parlement à Ottawa, va être capable de voir des allées-venues puis rencontrer des députés... allègrement, qui n'ont aucune espèce de protection.
Oui, effectivement. Maître Bellemare, je voulais m'entretenir avec vous sur ce sujet-là, les manifestations. Montréal est une plaque tournante de manifestants. Il y a constamment des manifestations sur l'île. Montréal représente la moitié du Québec en termes de population, mais sur l'île, bon, il y a bon nombre d'universités, des campus et parfois, à l'intérieur de ces 10 campus-là, il y a des regroupements qui veulent militer pour si... ou pour ça. En Beauce, on disait dans le temps « aïeux puis aïa », à gauche et à droite. Mais elle est où la liberté de manifester et de dire à peu près n'importe quoi dans nos rues, que ce soit à Montréal ou partout ailleurs au Québec? Je me souviens d'un gars qui avait appelé au meurtre de certaines personnes lors d'une grosse manifestation. Adil Sharkaoui est une personne assez particulière. Finalement, les services policiers ont dit « ben oui, effectivement, il a fait un appel au meurtre, mais c'était dans le cadre d'une prière et c'était pas nécessairement un appel au meurtre ». La liberté d'expression, la liberté de manifester, moi, je suis un grand amateur de la liberté d'expression, mais à partir du moment où il y a des gestes violents qui sont posés lors de manifestations, qu'on brise des vitrines, qu'on renverse des statues, qu'on casse tout, des fois, on se demande, la police de Montréal est où, là-dedans? Là? Et on dirait qu'il entoure la manifestation, mais il n'empêche pas les casseurs de casser. Est-ce qu'on est trop soft on crime au Québec?
Oui, d'après moi, oui, parce que tu vois, il y avait à l'occasion du printemps érable, les manifestations de 2012, la ville de Montréal avait adopté des règlements qui prévoyaient que les manifestants devaient donner leur itinéraire et qui prévoyaient qu'ils ne pouvaient pas manifester à visage couvert, qu'on puisse les identifier si jamais il y avait des débordements. Pardon. Alors, ces règlements-là ont été complètement détruits par les tribunaux qui ont jugé que ça excédait et que ça violait le principe de la liberté d'expression. Alors, les tribunaux, dont la Cour d'appel en 2019, ont annulé ces dispositions-là en disant qu'elles étaient contraires aux chartes. Alors aujourd'hui, les manifestants bénéficient de la pleine liberté. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tu as le droit de briser une voiture de police. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de menacer quelqu'un en manifestant ou de bousculer quelqu'un qui ne penserait pas comme toi. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça peut permettre le dépôt d'accusations criminelles s'il y a des actes violents qui sont posés. Mais tu parlais de M. Sharkaoui tantôt. La raison pour laquelle il n'a pas été accusé, c'est qu'effectivement, le code criminel a été modifié il y a quelques années pour faire en sorte que des propos, on ne puisse pas qualifier de propos haineux, propos qui sont tenus sous l'égide d'une religion ou dans un contexte religieux. C'est complètement ridicule, c'est complètement aberrant, mais on permet ce genre de situation-là. Et c'est pour ça que M. Sharkaoui a pu prendre le micro en plein centre-ville de Montréal et tenir des propos manifestement hostiles aux Juifs.
Maître Bellemare, j'ai la citation d'Adil Sharkawi, là, c'est « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous un par un, puis extermine-les et n'exclue aucun d'eux. » En quoi c'est non-violent, ça? Je ne sais pas.
C'est violent, c'est une charge à fond de train contre les Juifs. C'est un appel à la violence qui est assez explicite, à mon avis. À l'époque, la Sûreté du Québec, la police de Montréal avait décidé de confier l'affaire à la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, qui a, semble-t-il, procédé à une enquête. Ils ont des vidéos, ils ont les audios, ils ont tout. Alors, ça aurait été facile d'accuser, mais... compte tenu du code criminel et compte tenu que ça aurait été tenu dans un contexte plutôt religieux, il n'y a jamais eu d'accusation qui a été déposée. Donc, c'est assez ouvert au niveau des manifestations, des propos, des slogans, et les tribunaux ont toujours tendance à donner raison aux manifestants sous prétexte de la liberté d'expression. Ça va loin. C'est la charte à Trudeau, c'est la charte de 82. C'est la charte aussi du Québec, depuis 1975, qui prévoit comme fondement important la liberté d'expression, qui l'emporte tout le temps. Et bien sûr, ça mène à des excès, mais on semble donner priorité à la liberté d'expression, même dans ce contexte-là. Ça veut dire que ça va quand même assez loin.
Mais à partir du moment où il y a de la violence, il faut qu'on décroche là, de ça. Puis, tu sais, j'aime pas comparer les divers corps de police, mais on n'a pas le choix de le faire. Quand vous parlez du printemps érable tout à l'heure, il y avait une différence marquée entre la police de Montréal et la police de Québec. Là. À Montréal, on laissait les manifestants casser des vitrines. C'était extrêmement difficile à contrôler les foules. Et à Québec, en 15 minutes, à partir du moment où on ne respectait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire pendant la manifestation, on les embarquait dans des autobus, puis du RTC, et je me souviens d'un député de l'époque de Québec solidaire qui avait été arrêté par la police de Québec, puis menotté, qui la trouvait pas drôle, la façon dont on traitait à Québec ces manifestants-là. Il était fâché, lui.
Oui, c'est ça. Mais c'est, effectivement, il y a plus de rigueur du côté de la police de Québec face aux manifestants. Peut-être que la police de Québec est moins familière aussi, prennent ça plutôt au pied de la lettre, ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. Mais dans un certain nombre de dossiers, je pense qu'on a manqué une occasion de tester les tribunaux aussi. Parce que quand on dépose des accusations pour méfaits publics ou pour discours haineux, par exemple... on peut s'adresser au tribunal qui va décider s'il y a matière à condamnation. Mais si on est toujours sur les talons et qu'on a toujours peur de perdre la cause et qu'on ne prend jamais le risque d'obtenir une condamnation criminelle, ben on laisse tout aller. Puis c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des discours haineux. Puis les manifestants, eux, n'ont pas trop de scrupules à prononcer des menaces et à avoir des discours qui sont franchement odieux. Madame, si la police ne bouge pas, puis si le DPCP ne bouge pas, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ben c'est pas toi puis moi qui pouvons bouger dans les circonstances. On peut simplement le déplorer en espérant qu'éventuellement, il y aura un resserrement des contrôles puis qu'il y aura des accusations qui seront déposées parce que je pense que les tribunaux sont prêts à intervenir dans ce genre de cas-là, mais encore faut-il qu'il y ait des accusations qui soient déposées.
Maître Bellemare, il nous reste une minute. Ça m'amène à une publication, en fait, un papier de Raphaël Pirot du Journal de Québec, Journal de Montréal, où il parlait du chef conservateur Pierre Poilievre qui réitère son engagement de durcir les peines pour les coupables de crimes graves. On en a souvent parlé à l'émission. On le disait depuis des années, les conservateurs sont un peu plus « tough on crime » et les libéraux sont un peu plus « soft on crime ». Je pense que la sortie de Pierre Poilievre concernant les crimes graves, durcir les sentences, ça fait plaisir à plusieurs personnes.
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que depuis 2015, avec les libéraux de Trudeau puis maintenant de Carney, on a eu les lois C-75 qui permettent la libération de dangereux criminels. On a eu la loi C-5 qui permet les peines Netflix, les peines dans la communauté pour une quantité appréciable d'agresseurs sexuels, de pédophiles, de criminels dangereux. Alors, je pense que M. Poilievre a l'intention de s'attarder à cette problématique-là Et on est dû, je pense, au Québec, au Canada, pour un durcissement des peines. Les gens sont pas mal écœurés de voir des criminels dangereux s'en sortir avec des peines dans la communauté. C'est à mon avis, des mesures qui discréditent considérablement tout notre système de justice criminelle. Je suis bien content qu'il y ait un parti politique fédéral d'importance qui décide de ramener les tribunaux de juridiction criminelle sur la bonne voie, avec des peines plus sévères.
Je vous souhaite de passer d'agréables soirées, Maître Bellemare, puis en souhaitant que le Canadien en gagne un autre demain.
Oui, bien sûr, on va être là pour écouter